Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. L'épisode du jour est le deuxième volet que nous consacrons à un article paru dans Médiacité Toulouse, qui est l'un de nos partenaires et avec qui nous évoquerons des sujets qui touchent nos deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, où Podcasting est ancré. Cet article s'appelle « Rugby, le train de la Coupe du Monde roule-t-il pour Bernard Laporte ?» Et c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Philippe Kallenbrunn.
Bonjour.
Nous nous intéressons donc à la personnalité de l'actuel président de la Fédération française de rugby. Bernard Laporte vise un second mandat lors de l'élection qui aura lieu samedi, le 3 octobre, mais il est dans la tourmente. La semaine dernière, il a été placé en garde à vue. Il n'en a peut-être pas fini avec la justice, d'autant qu'une autre affaire pourrait bien lui coûter cher, c'est celle que vous évoquez dans votre article. On va y revenir longuement à la fin de cet épisode. Mais d'abord, nous allons continuer à évoquer le parcours de Bernard Laporte. En 2007, il quitte l'équipe de France, il ne retrouvera le banc d'une équipe qu'en 2011 à Toulon. Entre-temps, Bernard Laporte ne chôme pas puisqu'il devient secrétaire d'État. Parlez-nous de son engagement politique.
La légende dit que c'est en courant sur le bassin d'Arcachon, en faisant son footing avec Nicolas Sarkozy, que les choses se sont faites. Nicolas Sarkozy s'est pris d'affection pour ce Bernard Laporte, charismatique, grande gueule, sympathique. Il a décidé d'en faire son secrétaire d'État au sport. Bernard Laporte a débarqué dans ce milieu de la politique, dans ce monde qui lui était évidemment étranger, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il a été assez rapidement... mis sous tutelle, accompagné par un directeur de cabinet qui lui expliquait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, comment il pouvait parler. Enfin bon, c'était assez comique cette parenthèse au sommet de l'État pour Bernard Laporte. Évidemment, il faisait l'objet de railleries de la part des parlementaires quand il prenait la parole à l'Assemblée nationale. Il était coutumier de faire des bourdes assez incroyables. Je repense par exemple à cette déclaration qu'il avait faite au moment de la grossesse de Rachida Dati en déclarant publiquement qu'il n'était pas le père de l'enfant. Mais il est comme ça, Bernard Laporte, sans retenue, de naturel, qui peut-être à l'époque encore ne contrôlait pas ses propos et bien qu'il ait été encadré, régulièrement débordé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas duré dans la fonction.
Bernard Laporte, donc sa carrière politique a pour l'instant été relativement courte. En revanche, sa carrière dans les affaires, c'est un homme d'affaires.
Oui, tout à fait. Il a investi à un moment dans des bars, dans des restos, dans des casinos évidemment aussi, et notamment du côté du bassin d'Arcachon. Peu avant le début de la Coupe du Monde 2007, il est pris un petit peu les mains dans le cambouis en vendant des maillots de l'équipe de France sur lesquels il avait simplement apposé sa signature. Il vendait ses maillots au double du prix et... c'était quand même un petit peu too much pour un sélectionneur en poste. Donc Bernard Laporte, oui, c'est quelqu'un qui aime le business, qui fait du business. Les réseaux qu'il a pu développer aussi à cette époque-là dans des paradis fiscaux ont été clairement expliqués. Hein. Des journalistes d'investigation sont remontés au Luxembourg, à Belize. Mais pour l'instant, il est toujours passé entre les mailles du filet. Et la façon dont il procède aujourd'hui est toujours la même. Il se pense intouchable.
En 2011, donc, on le retrouve à Toulon. Là encore, il va y trouver un mécène qui a repris le club 5 ans plus tôt, un petit peu comme à Paris. Et ses succès, comme ses moyens d'ailleurs, seront encore plus importants qu'avec le Stade français.
Là aussi, au prix d'une rencontre avec Mourad Boudjelal, hein, il bâtit une équipe avec des joueurs revanchards, quelques stars aussi, avec son savoir-faire, avec son charisme, son caractère, qui est parfois un caractère de cochon. Il arrive à agréger tous ces joueurs-là, des joueurs exceptionnels. Hein. Il peut compter sur Johnny Wilkinson, sur Brian Abana, sur Bakis Botta, enfin, des stars mondiales du rugby. il arrive à les faire cohabiter et à transformer cette équipe en rouleau compresseur. Elle sera sacrée 3 fois championne d'Europe consécutivement, ce qui est un exploit formidable.
En 2016, Bernard Laporte quitte le RC Toulon et en décembre, il est élu président de la Fédération française de rugby. Et à 2 jours du terme de son mandat, quel bilan peut-on en tirer ?
Lui prétend évidemment avoir respecté 95% des engagements qu'il avait pris. Simplement, il se trouve qu'aujourd'hui, un certain nombre de choses ne fonctionnent pas très bien dans le rugby français. Le nombre de licenciés chute de façon assez inexorable depuis quelques années. La gestion financière de la fédération interpelle aussi. Laporte est arrivé en 2016, il y avait beaucoup d'argent dans les caisses, 4 ans plus tard il y en a beaucoup moins, et puis en plus de cela, bien évidemment, Bernard Laporte a été au centre de plusieurs affaires, plus ou moins graves. On peut se rappeler de son intervention téléphonique, alors qu'il se trouve à Singapour à ce moment-là, il appelle un délégué de match pour faire qualifier un joueur dont la licence n'était pas valable. Il se trouve que ce joueur en question est l'un de ses associés dans une affaire qu'il a sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est à l'image de Bernard Laporte, tout est permis, rien ne l'arrête.
Cette fois cependant, il semble que l'étau se resserre. On va en venir aux raisons qui ont motivé sa garde à vue la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ?
On reproche à Bernard Laporte une étrange collusion entre ses intérêts personnels et les intérêts du rugby français. En 2017, Bernard Laporte a signé un contrat privé avec le groupe Altrad. Ce groupe Altrad allant devenir très peu de temps après l'un des sponsors importants de la Fédération française de rugby et le financeur de la campagne de candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Il y a des faisceaux d'indices sur lesquels les enquêteurs ont travaillé qui interpellent. Voilà, dans quelles conditions ce contrat a-t-il été signé ? Voulait-il dire qu'il y aurait des contreparties en faveur du groupe Altrad ? Le fait que Bernard Laporte soit intervenu dans une décision de la commission d'appel de la FFR, qui est une commission indépendante, en faveur du club de Montpellier, pour réduire une sanction qui avait été prise, interpelle aussi dans ce contexte-là. Bref, on soupçonne Bernard Laporte de trafic d'influence.
Je le disais dans le premier épisode, vous révélez dans le dernier journal du dimanche que les enquêteurs s'intéressent aussi à la manière dont la France a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Le nom de Moed Altrad revient à nouveau.
Oui, le nom de Moed Altrad revient parce que Moed Altrad est le financeur de toute la campagne qui a été menée pour obtenir le bénéfice d'organiser la Coupe du Monde en 2023. Il a été le financeur de façon officielle, je dirais. Pour la première fois dans l'histoire du rugby français, il a sponsorisé le maillot de l'équipe de France. Il a aussi vraisemblablement financé cette campagne, mais de façon un peu plus occulte, je dirais. Ce que j'ai pu révéler dans le journal du dimanche, c'est que Moed Altrad a, par exemple, payé au moins 2 vols, l'un à destination de la Mongolie et l'autre à destination de la Géorgie. À bord de ces vols se trouvaient Bernard Laporte, Serge Simon, Claude Haché et Nicolas Ourquet, qui est responsable des relations internationales à la Fédération française de rugby. Ces dirigeants fédéraux ont pris place à bord de ces avions privés, donc payés par Moed Altrad, a priori pour aller faire du lobbying auprès des fédérations de ces pays lointains pour espérer pouvoir bénéficier de leur vote le moment voulu. Ce qui est un petit peu étrange, c'est que le financement de ces vols n'était a priori prévu par aucun contrat passé entre le groupe Altrad et la Fédération française de rugby, en tout cas à l'époque où ils ont eu lieu. Cet exemple est assez évocateur de ce que peuvent chercher aujourd'hui les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance économique, qui, semble-t-il, soupçonnent des transactions financières un petit peu curieuses, pas forcément officielles et budgétées dans les comptes de la Fédération française de rugby.
Elle est battue évidemment par les
Cette affaire est évidemment une épine dans le pied de Bernard Laporte, mais ce n'est pas la seule, et on en vient à votre article, Philippe Kallenbrunn. Il est question d'un train qui sera d'ailleurs en gare de Bordeaux samedi, alors même que se déroulera l'élection du président de la Fédération française de rugby. Ce train, à quoi sert-il? Pourquoi va-t-il sillonner la France?
Alors c'est un train événementiel qui est organisé par la SNCF, hein, par une filiale de la SNCF, qui prétend à la fois promouvoir l'événement qui aura lieu, je vous le rappelle, dans 3 ans, hein, donc on est quand même très très loin de l'échéance, à la fois promouvoir l'événement dans les territoires, puisque c'est un train qui va circuler dans une vingtaine de villes, et puis qui veut mettre en avant la responsabilité sociale et environnementale de la compétition. On attend ça des grands événements sportifs, c'est-à-dire que non seulement du spectacle, des matchs, de la passion, etc., mais aussi que va-t-il rester de ces compétitions une fois qu'elles sont terminées. Donc ce train vise à promouvoir ça. On trouve des choses très importantes, comme par exemple le dispositif Campus 2023, qui vise à recruter 2023 apprentis d'ici la Coupe du Monde. On trouve à bord de ce train la présence de petits producteurs locaux qui viennent présenter leurs produits, vendre leurs produits, un laboratoire de tests Covid, puisque ce train a été maintenu en dépit de la crise sanitaire qu'on traverse, et ça fait d'ailleurs partie des interrogations qu'on peut avoir à son sujet. Voilà, donc c'est un train événementiel qui circule 3 ans avant le début de la compétition.
Et Bernard Laporte aurait pu se servir de ce train pour séduire une partie du monde du rugby et les clubs amateurs en particulier. C'est en tout cas une hypothèse que vous soulevez dans votre article. Qu'est-ce qui peut amener à penser cela?
Ben, d'abord, il faut savoir que ce train devait rouler au moment du confinement. Sa mise en œuvre était initialement prévue entre le mois d'avril et le mois de juin 2020. Il n'a pas pu partir, hein. Il a fallu donc le reprogrammer. Enfin, en tout cas, le comité d'organisation de la Coupe du Monde a jugé bon que ce train circule vaille que vaille, coûte que coûte, que c'était un élément de promotion indispensable, hein, vraisemblablement, dans un contexte très particulier de crise sanitaire. Ce qui interpelle un petit peu, c'est que ce train a été reporté au tout début du mois de septembre. Son inauguration a eu lieu le 8 septembre à Paris. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Alors, parmi les explications que donne le comité d'organisation de la Coupe du Monde, c'est que le 8 septembre était une date symbolique puisque on était alors à 3 ans jour pour jour de l'ouverture de la Coupe du Monde en France. Bon, soit que la mise en avant de toutes les valeurs RSE sont extrêmement importantes. Bon, des arguments qui valent ce qu'ils valent, j'ai envie de dire. Ce qui est plus amusant à relever, c'est que le départ de ce train a aussi été donné dans la dernière ligne droite qui mène Bernard Laporte à l'élection de la Fédération française de rugby, hein, donc qui a lieu le 3 octobre. Et que donc, pendant un mois, on promeut la Coupe du Monde de rugby, dont l'organisation a été remportée par Bernard Laporte, il faut le signaler, et sur laquelle Bernard Laporte construit une grande partie de son programme, hein, de son programme électoral. Il espère beaucoup des fruits, des retombées de cette compétition. Il estime que les licenciés qui ont été perdus seront regagnés parce que la compétition permettra de séduire à nouveau des jeunes qui vont naturellement venir au rugby. Il y a ce contexte-là qui est à comprendre. Un autre élément important, c'est que la reprogrammation de ce train s'est sans doute opérée aussi par le fait que deux hommes sont particulièrement amis. D'un côté, nous avons Bernard Laporte et de l'autre côté, nous avons Karim Zeribi. Karim Zeribi est le PDG de Train Événement Expo, hein, donc la filiale de la SNCF qui organise ce train. Ces deux hommes se connaissent bien. Ils ont un passé de chroniqueur à RMC. Ils sont d'ailleurs toujours chroniqueurs aujourd'hui ensemble dans l'émission de Cyril Hanouna Balance ton poste. Karim Zeribi, avant d'être nommé à ce poste à la SNCF, a emmené Bernard Laporte en Algérie pour promouvoir le rugby algérien. Ces hommes-là se sont aussi retrouvés lors d'un gala organisé par une société, le gala Flotte Auto, hein, dans laquelle Laporte intervenait. Zeribi était animateur et on trouvait là aussi Jean-Pierre Farandou, qui deviendra peu après PDG de la SNCF. Il y a tout ce contexte-là qui est assez troublant, je dirais, et qui laisse à penser que la reprogrammation de ce train en pleine campagne électorale pour l'élection à la Fédération française de rugby n'a peut-être pas été totalement innocente.
Alors Philippe Calenbrune, je ne vais pas évoquer dans ma dernière question la seule élection à la présidence de la Fédération française de rugby, mais on a le sentiment qu'aujourd'hui, Bernard Laporte s'est mis à dos une partie de ceux qui aiment et qui font vivre ce sport. L'opinion publique ne lui est pas forcément très favorable, la justice s'en mêle. Est-ce qu'il peut tout perdre? Est-ce que les affaires peuvent s'enchaîner, les portes se fermer? Ou bien est-ce que c'est selon vous une tempête passagère et l'ancien ministre parviendra à retomber sur ses pattes?
Je ne crois pas que la garde à vue dont il vient de sortir aura un impact extrême sur le résultat de l'élection. D'ailleurs, avant d'entrer en garde à vue, Bernard Laporte et son équipe étaient persuadés de gagner. Tout comme le camp d'en face, d'ailleurs l'équipe de Florent Grill aussi, d'après ses comptes, est persuadée de gagner. Il y aura un vrai match lors de l'élection. Le seul élément de réflexion pourrait concerner le nombre des indécis parmi les votants. Les votants, ce sont les présidents des clubs. Hein. Il y a à peu près 1900 clubs de rugby en France, donc c'est eux qui ont la clé de l'élection entre leurs mains. Je ne pense pas, moi, que cette affaire de justice vienne vraiment perturber l'élection. La très grande majorité de ces présidents de clubs votants sont très loin de ces affaires-là. Leurs préoccupations, elles sont beaucoup plus terre-à-terre, j'ai envie de dire. Elles sont beaucoup plus proches du terrain. Eux ont besoin de moyens financiers pour pouvoir faire vivre leur club. Parfois, des petits clubs de village qui sont isolés, qui peinent à construire des équipes, à recruter des jeunes joueurs, qui sont obligés parfois de composer des ententes avec les clubs des villages voisins, qui souffrent aussi d'un manque de bénévoles parfois, parce que les bénévoles s'essoufflent à force de beaucoup donner et de ne recevoir pas grand-chose. Voilà, donc, si vous voulez, moi je pense que les problèmes du quotidien des gens qui votent sont très très loin de ces questions de justice, de ce milieu des affaires dans lequel trempe évidemment Bernard Laporte. Pour moi, l'impact sur l'élection ne sera pas frappant.
Merci beaucoup, Philippe Calenbrune, d'avoir été avec nous tout au long de ces épisodes. Je rappelle le titre de votre article paru dans Mediacité Toulouse. Rugby, le train de la Coupe du Monde roule-t-il pour Bernard Laporte? C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Ruot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple ou Google Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.